Les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancelleraient. Quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme promis. Ne s'éloignera pas de toi. Son amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneront,
Jésus, je te remercie, mon Dieu, parce que je sais que ta parole va fortifier chacun. Chacun a besoin encore aujourd'hui de ta parole et chaque jour nous avons besoin de toi, nous en sommes conscients. Je te remercie de fortifier en ce moment notre sœur Isabelle, de permettre qu'elle puisse eh bien se relever. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui la protège, qui la garde. Je te remercie pour tout ce qui se passera pour elle cette semaine. Je te prie de veiller sur elle. Je crois que c'est toi qui t'occupes d'elle personnellement. Je te remercie, mon Dieu, par avance pour cela. Je te remets aussi notre sœur Edith. Je te remercie aussi de la renouveler dans ses forces et de permettre que tout aille bien aussi pour elle et sa famille. Merci Jésus pour cela, parce que nous pouvons te remettre nos souffrances. Tu es le Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Et je te remercie Seigneur pour toutes choses. Amen.
Tous, nous allons prendre ce matin dans l'Apocalypse au chapitre 3, s'il vous plaît. C'est mon petit-fils qui dit bonjour. Était gentil comme tout, il a dormi dans la chambre à papy et mamie, et il était gentil, il n'a pas pleuré, il nous a laissé tranquille, super. Apocalypse 3, 15-16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La tiédeur, c'est une des choses que Dieu n'aime pas. Pourtant, Dieu est amour. On peut dire, comment ça se fait que Dieu n'aime pas certaines choses? Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et la tiédeur, chez un de ses disciples, c'est vraiment une chose qu'il n'aime pas du tout. La tiédeur, c'est un mot français qui signifie manque de ferveur. C'est le manque d'ardeur. Un disciple qui manque de ferveur, qui manque d'enthousiasme, qui manque de zèle, ça n'est pas normal. Alors le gros problème, c'est qu'est-ce que c'est normal? C'est difficile de savoir. Parce que c'est là que vient se placer le mot discipline. Un des deux mots à étudier ce mois, vous savez qu'on étudie chaque mois un ou deux mots. On avait décidé, j'avais fait une liste au début de l'année 2011. Et un des deux mots à étudier ce mois, c'est autodiscipline. Un disciple normal, c'est une personne qui a en lui l'esprit de Dieu et tous les esprits religieux disent « Amen !» Mais il faudrait chercher à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il est nécessaire plus que jamais de dire qu'est-ce que c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli de l'Esprit, ça n'a rien à voir avec une expérience qu'on peut faire à un moment donné. L'Esprit de Dieu, premièrement, il s'incarne dans une personne, il entre en nous au moment de notre conversion. Et à partir de là, à partir de cette conversion, notre moi est sous influence. Je vous ai enseigné ces choses encore dernièrement. C'est-à-dire notre moi est sous contrôle de la personne de Jésus, parce que le Saint-Esprit c'est Jésus. Il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit », il a dit « Je vivrai en vous ». Il n'y a pas 150 personnes en nous, il y a notre Dieu qui est en nous, sous la forme du Saint-Esprit. D'accord, c'est un esprit. Alors il se manifeste quand il est en nous, d'une certaine manière, ce qui fait que le moi, qui est soumis à cet esprit de Dieu, il va manifester des choses. Quelles choses? Eh bien, celles que Jésus manifestait dans son état d'esprit à lui. État d'esprit, être dans un état, être dans un esprit, être dans une façon, dans un esprit. Un disciple normal, c'est donc une personne qui manifeste ce que Christ manifestait. C'est une personne qui a le même esprit, c'est quelqu'un qui manifeste le même état d'esprit que Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il manifeste les miracles et toutes ces choses. Oui, bien sûr, ça aussi. Mais c'est surtout son état d'esprit. Jésus, il aimait les gens, c'est clair. Et les gens sont des pécheurs, c'est clair. Il aimait les gens, il aimait les pécheurs, mais il n'aimait pas le péché et il n'aimait pas non plus les attributs du péché. Un disciple de Jésus, il a le même esprit que Jésus. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Jésus, il était passionné d'amour pour les pécheurs. Il les fréquentait, il fréquentait toutes sortes de pécheurs. D'ailleurs, les religieux n'aimaient pas beaucoup ça parce qu'on voyait Jésus chez des drôles de gens, fréquenter des drôles de personnes. Mais la conduite de Jésus, partout où il allait, était sainte. Un disciple normal est ainsi, c'est-à-dire il est comme Christ, ça veut dire il est chrétien. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Donc vous pouvez fréquenter tous les pécheurs du monde que vous voulez, mais votre conduite, elle est différente de la leur. Il y a une vieille chanson qui dit, il faut être très vieux pour la connaître, « De t'aimer follement, mon amour. » Vous connaissez cette chanson, hein ?« De t'aimer follement, nuit et jour. » Un disciple n'aime pas follement. Il aime avec modération. Alors voilà, ça c'est le deuxième mot à étudier ce mois-ci, le mot modération. Mais est-ce que la modération n'est pas de la tiédeur? Ben non, ce sont deux mots vraiment différents. Le disciple tiède, on vient de le lire, il est vomissable parce qu'il est un disciple tiède. C'est-à-dire que sa discipline est tiède. Donc, étant tiède, n'étant pas réglé sur la discipline de Jésus dans son état d'esprit à lui, alors son amour est fou. Pas normal. Je crois que j'ai trouvé qu'est-ce que ça veut dire pas normal. Il est soit exagéré, ou alors il est quasi inexistant en acte. Il peut être du blablabla, mais il n'y a pas d'acte. Quand un disciple est bouillant, il aime selon les règles divines. Et c'est justement ce qui manque cruellement aux gens du monde. N'ayant pas en eux l'esprit de Jésus, ils ne manifestent qu'un amour qui se dérègle. Vous comprenez, mes frères et sœurs, il n'y a pas de règle. Au début, oui, il y a une passion, c'est exubérant, puis après, ça se dérègle. Jésus, lui, il était modéré, c'est-à-dire pas tiède, non, mais modéré. Il savait qu'il y avait des moments où il fallait parler, des moments où il ne faut pas parler. Il ne s'emballait pas, il était modéré parce qu'il était fervent. Vous allez me dire, c'est bizarre, ça semble se contredire. Non. Il était modéré parce qu'il était fervent. Il était modéré parce qu'il était un fervent disciple de son Père. Il faisait la volonté de son Père, il s'auto-disciplinait, il refusait de faire tout ce qui lui passait par la tête. Et il lui en passait des choses par la tête, puisque la Bible nous dit qu'il était tenté en toutes choses comme nous. Et nous, il nous en passe des choses par la tête. Il se tenait éloigné de toute position excessive. Ce n'est pas des choses excessives. Même sa mort sur la croix, ce n'était pas un excès de zèle. C'était juste précisément ce qu'il devait faire. À nous, ça nous paraît être terrible, mais en réalité, ça n'était que de l'obéissance calculée. C'était de l'obéissance réfléchie. C'était pas un excès. Ça nous paraît comme un acte excessif, aller donner sa vie pour les gens. Mais ce n'était qu'un acte de discipline volontaire, mûrement réfléchi. Jésus faisait sans cesse preuve de pondération. La pondération, ce n'est pas la tiédeur. C'est parce que Jésus était discipliné à faire, à vouloir accomplir la volonté de son Père, qu'il était pondéré, c'est-à-dire qu'il était dans le juste équilibre. Ce n'est pas facile. C'est tout le travail de notre vie. Écoutez, les souffrances intérieures de Jésus, parce que de temps en temps, ça transparaît. Parce que Jésus vivait dans un corps comme le nôtre, et de temps en temps, il était fatigué, et de temps en temps, ben voilà. Et ça transparaît, sa souffrance. Dans la version Chouraki, j'aime bien. Écoutez comment il dit. « Ô âge sans adhérence et dévoyé, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je » Il en avait marre. Marre. Pour en arriver à dire ça. Quelle souffrance dans ce cri. En fait, Jésus, là, il reprend un cri que Moïse poussa des siècles avant. Écoutez la souffrance intérieure de Moïse, la souffrance de celui qui est ardent pour son Dieu. Écoutez ce qu'il disait, toujours dans la Chouraki. Prenez cet acte de la Torah, mettez-le à côté du coffre du pacte de Adonai, votre Elohim. Il sera là en témoin contre toi. Oui, je connais moi-même ta rébellion, ta nuque dure. Certes, tandis que je suis encore vivant avec vous ce jour, vous vous rebellez contre Adonai. Combien plus après ma mort ? Rassemblez tous les anciens de vos rameaux et vos commissaires. Je parlerai à leurs oreilles ces paroles et j'en atteste par elles les ciels et la terre. Oui, je le savais, après ma mort, oui, vous vous détruirez. Vous vous détruirez, il rappelle, il redit. Vous vous écarterez de la route que je vous ai ordonnée. Le malheur vous abordera dans l'après des jours. Oui, vous ferez le mal aux yeux de Adonai pour l'irriter par les œuvres de vos mains. Moïse parle aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël de ce poème dans son intégralité. Et il continue. Soyez aux écoutes, ciel. Je parle, terre. Entends les dires de ma bouche. Ma leçon goûte comme l'averse. Mon dire se liquéfie comme la rosée, comme le grain sur le gazon, comme la giboulée sur l'herbe. Oui, le nom de Adonai, je le crie. Offrez la grandeur à Elohim, le roc, son œuvre intégrale, oui. Toutes ses routes sont justes. Le Dieu de l'adhérence, sans forfait, le juste, le droit, lui. Ils se sont corrompus pour lui, corrompus à ses yeux. Ses fils, dans leur tare. Âge tortueux et sinueux. Est-ce Adonai que vous rétribuez, que vous payez en faisant cela? C'est comme ça que vous payez Dieu? Peuple veule, non sage, n'est-il pas ton père? Lui, ton auteur? Ô âge sans adhérence et dévoyé, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Ne supportez plus. Moïse en avait marre, Jésus en avait marre. Ils avaient tous les deux le pouvoir. Mais heureusement, ils étaient modérés. Heureusement, ils étaient modérés. S'ils n'avaient pas été modérés, ils les auraient fait mourir sur place. Un souffle, et hop, ils étaient tous retournés à la poussière. Leur colère était justifiée, mais ils la modéraient. Ils n'entraient pas dans l'excès. Pourquoi ? Parce que la raison était la plus forte. La raison. Ils savaient pourquoi ils étaient là, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et c'était ça le plus important. Moïse devait conduire ces chères personnes au cou raide dans une terre qu'ils ne méritaient pas. Et Jésus devait donner sa vie pour ces gens et non pas les exterminer. Il devait les donner sa vie à leur place. Alors qu'ils auraient dû être exterminés, mais non, il est mort à leur place. Ils ont fait tous les deux preuve d'autodiscipline et de modération. C'est cela que Jésus attend de nous, que nous soyons adhérents, c'est-à-dire collés à lui, collés à sa parole, collés à ses exigences, fortement attachés à sa volonté. Un disciple, c'est une personne qui a souscrit à l'Esprit de Dieu, à la pensée de Jésus. Souscrire à l'Esprit de Dieu, c'est un peu virtuel comme idée. Je préfère dire on a souscrit à la pensée de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus est une personne qui a l'esprit du parti de Jésus, l'esprit de son groupe, l'esprit de son église, l'esprit, son état d'esprit. Le peuple de Moïse était sans adhérence. Il ne collait pas. Il était dissocié, non pas associé à l'esprit, à la volonté, à l'idée sainte de Dieu. Ils étaient dissociés. Et nous, disciples de Jésus, nous sommes adhérents à la vie de Jésus, adhérents comme des branches fortement attachées au tronc. Et c'est de là, c'est de ce tronc que nous tirons la sève, c'est-à-dire la vie. La vie, c'est ce qui nous permet de porter du fruit. Si on n'est pas adhérent, on ne porte pas de fruit. Oh, mes frères et sœurs, qu'il ne nous soit jamais reproché d'être un peuple sans adhérence. Nous sommes adhérents dans le sens le plus noble du mot de la langue française. Nous avons souscrit un contrat à l'idée de Dieu, à la doctrine de Dieu, à la règle de vie de Dieu, à l'Église de Dieu. C'était ça notre baptême. C'était ça notre baptême. Alors, nous cherchons à lui ressembler. On a un petit chant qui dit, on va le chanter ensemble. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Parler, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors, par ton esprit, c'est-à-dire que nous nous inspirons de son esprit, de l'état d'esprit qu'il manifestait. C'est pourquoi il est bon de regarder comment Jésus faisait, comment il agissait, comment il réagissait, ce qu'il attendait, son enseignement. Jésus, il n'attendait pas d'être discipliné. Il s'auto-disciplinait. Le français, ça signifie quelque chose. On dit toujours, oh, il est discipliné, E accent aigu. Mais est-ce qu'on dit souvent discipliné, ER, c'est-à-dire le verbe à l'infinitif. Discipliné, ER à l'infinitif, le verbe, ça signifie soumettre quelqu'un à l'obéissance à un ensemble de règles. Discipliner, c'est maîtriser quelque chose ou quelqu'un pour le rendre utilisable. Mais je ne vous invente rien, vous prenez votre dictionnaire, vous allez voir. Discipliner, c'est maîtriser quelque chose ou quelqu'un pour le rendre utilisable. À l'armée, l'autre jour, je parlais avec Esteban, qui est dans la gendarmerie, et il me parlait de tout ce qu'il étudie, de tout ce qu'il fait, de toute la pratique, et je disais, oui, ben, c'est un petit peu, c'est vraiment l'armée, quoi. L'armée, moi, c'était la même chose. Quand j'ai fait l'armée en Suisse, ils nous brisent pour qu'on soit obéissant sans réfléchir, sans discuter, pour qu'on soit utilisable par ce corps qui s'appelle le corps de l'armée. Pour que quand quelqu'un dit « à gauche », on ne dit pas « mais pourquoi ?» On va à gauche. Si quelqu'un nous dit « saute par la fenêtre », on ne dit pas « mais pourquoi ça peut être dangereux ?» Non, on saute. On nous brise au point, et toutes les règles idiotes même, toutes les choses, les brimades et tous ces machins, c'est pour nous discipliner, c'est-à-dire nous maîtriser afin de pouvoir nous utiliser. Mais il y a aussi des choses qu'on discipline. Par exemple, quand vous avez de l'eau qui dévaste les champs, etc., etc., on dit, eh bien, on discipline ce cours d'eau. C'est-à-dire, on lui fait des digues, on lui fait... Vous voyez ce que ça veut dire? On le maîtrise nous-mêmes. Alors, on a le choix. Soit on accepte d'être discipliné, c'est-à-dire que Dieu nous maîtrise pour nous rendre utilisables, ou alors on n'accepte pas. Si un prédestiné au salut, je parle des prédestinés du salut, si un prédestiné au salut n'accepte pas d'être soumis aux règles, ben Dieu va se charger de le discipliner. Alors, il va employer tout d'abord ses sous-fifres, c'est-à-dire ses pauvres pasteurs, hein, les bergers terrestres, il va employer les bergers. Il ne faut pas faire comme ça, non, il ne faut pas, non, il faut comme ça, oui, oui. Puis le pasteur, au bout d'un moment, il est un peu comme Moïse, il en a marre. Et puis alors Dieu, à ce moment-là, il donne un moyen. Il dit au pasteur, bon, ben, écoute, tu prends les anciens, vous discutez ensemble, et puis vous voyez la personne. Hein? Et puis si vraiment la personne refuse encore, la Bible nous dit que Dieu va se charger de le discipliner lui-même. Il va discipliner lui-même sa brebis bien aimée, mais qui a le coup raide. C'est Dieu qui va... Et ça va être terrible, parce que la Bible dit « Malheur à celui qui tombe dans les mains du Dieu vivant, vaut mieux tomber dans la main d'un pasteur. Hein. » Ils sont plus... cool. Ce sont les trois passages obligés pour la brebis au cou raide. Si c'est pas un, c'est deux. Si c'est pas deux, c'est trois. Si une brebis veut être disciplinée, c'est-à-dire veut être soumise aux règles du Seigneur, on dit bien Seigneur, hein, eh bien elle va s'auto-discipliner parce qu'elle est intelligente. Elle va pas attendre qu'on la discipline. Elle va s'auto-discipliner. C'est plus intelligent, non? Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'avait conduit au début de l'année à prendre ce mot pour le mois de novembre. S'auto-discipliner. Paul, il s'auto-disciplinait. Il n'a pas attendu que Dieu l'écrabouille, le modèle. Non, il a dit, bon, il y a ça à faire, ben je vais le faire. Il s'est imposé une discipline de vie volontaire. Et il raconte comment, il en parle, et il dit que c'est difficile. Il n'était pas modéré du tout dans sa façon de s'auto-discipliner. S'il avait été modéré dans sa façon de s'auto-discipliner, là, il aurait été tiède. C'est ça, un tiède. Alors, vous voyez où réside la différence entre modération et tiédeur? Elle se trouve là. Pourquoi vous disciplinez-vous? Parce que vous avez été appelé par Dieu, parce que vous vous savez aimé par Dieu, parce que vous aimez Dieu, vous savez toutes ces choses et vous désirez lui plaire. Personne ne vous oblige à vous discipliner. Ce n'est pas une question d'obligation, c'est une question d'amour. J'aime mon Dieu, je veux faire sa volonté, je veux faire comme il veut, je veux faire comme il dit. Hein? Ananias et Saphira, ils n'ont pas voulu se discipliner à la règle. Pierre leur dit, mais vous n'étiez pas obligé de le faire, hein? C'est sûr. Le problème, c'est qu'ils avaient fait croire à tous qu'ils se disciplinaient, qu'ils se soumettaient à la règle communautaire, et ils étaient illégalement dans la société de Jésus, illégalement dans la communauté de Jésus. Dieu voit tout. Il l'a montré à Pierre. Dieu vous voit. Il vous aime. Dieu vous voit. Il voit que vous vous autodisciplinez ou que vous ne vous autodisciplinez pas. Il voit que personne n'arrive à vous discipliner. Alors, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Le bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassure. Ah, nous revoilà au coup. Ta houlette et ton bâton me rassure. Chez nous, en Suisse, on a des bergers. Et j'ai demandé une fois à un berger, quand vous avez vraiment une brebis qui est insupportable, qu'est-ce que vous faites? Oh ben, c'est simple, j'y casse une patte. J'y casse une patte. Mais oui, comme ça, elle ne peut pas courir trop vite. Je peux m'arranger toujours avec elle, je ne suis pas obligé. Vous comprenez? Mais ça, c'est le bon berger. Parce qu'il aime sa brebis. Il aime sa brebis. Il veut la protéger de sa non-discipline. Si vous ne vous responsabilisez pas, c'est l'existence, c'est la vie, c'est les circonstances qui vont se charger de vous demander des comptes. Et voilà pourquoi, au début de cette année 2011, le Saint-Esprit m'a conduit à choisir ces deux mots en particulier pour le mois de novembre. Nous devons tous éprouver la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Voyez comment Dieu est bon. Il sait tout. Et il pourvoit à l'avance au moyen de sortir des pièges. Il m'avait donné autodiscipline et modération pour que nous comprenions bien. Quand on prie, on incline la tête, très souvent. Hein? Et c'est juste pour montrer à Dieu et aux anges qu'on est des gens qui n'ont pas un cou raide. C'est un geste pour montrer qu'on n'a pas le cou raide. Quelqu'un qui a le cou raide, il ne peut pas baisser la tête. Mais mes frères et sœurs, il y a plein de symboles comme ça dans la Bible. Le premier magnifique, c'est se faire baptiser, c'est un symbole. La Sainte-Cène, c'est un symbole. Le lavage des pieds, c'est un symbole. La tête inclinée, c'est un symbole. Mais être adhérent, ce n'est pas pratiquer les symboles. C'est coller à la saine doctrine de Jésus-Christ, c'est être fortement attaché aux exigences de sainteté de Jésus-Christ. C'est ça, être adhérent. Notre chair, elle n'aime pas ça. La chair de Paul n'aimait pas ça. Aucune chair n'aime cela. La vôtre n'aime pas cela. La mienne, je vous garantis, elle n'aime pas ça. C'est pourquoi Paul dit, je tiens assujetti. Mais n'oublions pas, mes frères et sœurs, le grand but. Le grand but. Vous savez, on vit les rébellions au coup par coup. C'est un petit machin par-ci, un petit machin par là, c'est dans le temps, puis après c'est fini. Tout ça, c'est calculé par Dieu, c'est compté par Dieu. Mais si nous perdons de vue le grand but, c'est dommage de perdre de vue le grand but. Le grand but, c'est que nous nous autodisciplinons pour devenir utilisables. Si vous voulez être utilisé par Dieu et porter vraiment des fruits et des fruits qui demeurent jusque dans l'éternité, il faut passer par cette autodiscipline. Sinon, ben c'est que Dieu, c'est du vent. Ça, l'apparence, c'est un peu comme le Canada Dry, hein. C'est très bon le Canada Dry, mais bon, c'est pas du champagne, hein. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut vous autodiscipliner en gardant à l'idée, à la pensée, que c'est parce que Dieu veut nous faire entrer, nous faire prendre part à son œuvre, ici-bas sur terre, mais pas seulement ici-bas sur terre, mais aussi dans les mondes à venir. C'est vraiment dommage. Quel dommage de rater tout ça simplement pour des détails, de petits plaisirs, des petits détails, de petites victoires personnelles qu'on a réussi à remporter et personne n'a rien vu. Quel dommage! Dieu y voit tout. Et il tient compte de tout ça. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous encourage à vous autodiscipliner et à être modérés afin de devenir utilisables pour la gloire de Dieu ici-bas et dans les mondes à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie de nous aider, chacun d'entre nous, que la crainte de ton saint nom et de ta personne parfaite se saisisse de chacun de nous pour que nous puissions être nous-mêmes concernés personnellement et que nous soyons des modèles pour tous les autres, afin de les rendre jaloux quand ils verront la bénédiction qui coule sur nous et toutes les bénédictions que tu en réserves pour ceux qui s'autodisciplinent et qui sont modérés. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.